Les transformateurs alimentaires viennent de traverser une année chargée, préoccupante, mais à travers laquelle la plupart des entreprises ont pu continuer à opérer et même dans plusieurs cas se développer. Mais il y a les cas particuliers qui préoccupent. J'ai discuté du contexte général avec la présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Madame Cloutier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lavac.
Madame Cloutier, je commencerai cet entretien, cette conversation avec la question du code de saines relations d'affaires dans le monde du commerce de l'alimentation. Il y a eu une proposition toute récente là du groupe Sobeys IGA pour établir justement un protocole de pratique dans le secteur. Est-ce que c'est quelque chose là qui pourrait, selon vous, être appliqué tel que le propose le groupe Sobeys IGA?
En fait, on est à examiner la proposition de fond en comble. C'est certain qu'on a reçu avec beaucoup d'intérêt cette proposition-là parce que tout le monde y travaille actuellement. Il y a un groupe de travail qui a été mis sur pied, fédéral, provincial, territorial. Et entre autres, le MAPAC est très impliqué avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ils font des consultations. Alors, je dirais qu'ils ont été très inclusifs. Là, je parle des groupes de travail. Et évidemment, on participe activement aux travaux de ce comité-là. Alors, clairement, ce que Sobeys propose, c'est intéressant. Ça fait certainement avancer la discussion. Mais il y a beaucoup de chemin à faire encore avant d'arriver à une proposition finale. Mais on est content de voir que, évidemment, le secteur de la distribution de détail qui est visé finalement par... Les anglophones appellent ça le code de conduite. Nous, on appelle ça un code de bonne pratique commerciale. Mais on est heureux de voir que les distributeurs détaillants, certainement chez Sobeys, ont pris ça vraiment à cœur et sont arrivés avec une proposition.
Est-ce qu'on a manifesté un certain intérêt, une certaine ouverture dans les autres groupes des gros distributeurs alimentaires, là?
Certainement. Nous, je ne suis pas au centre des travaux du groupe de travail gouvernemental, mais nous, c'est certain qu'on a été en contact avec certains. Et clairement, on travaille aussi avec nos partenaires à l'échelle canadienne et dans d'autres provinces, et tout le monde a fait un peu le même exercice partout. Alors, oui, il y a de l'ouverture. Nous, on souhaiterait évidemment une mobilisation puis une concertation autour d'un projet commun, mais évidemment, ça n'arrivera pas demain matin, mais on voit ça vraiment d'un bon œil.
C'est pensable qu'on ait un genre de protocole, un genre de code là, pan-canadien?
Pourquoi pas? C'est bien certain que si c'est un code pan-canadien, ça devrait être un code qui est volontaire. Mais c'est de voir comment on pourrait faire fonctionner un code canadien volontaire, quels sont les paramètres, quels sont les principes, comment on fait des suivis, par exemple, et qui fait les suivis. Parce que le gouvernement fédéral ne peut pas imposer un code de bonne pratique. C'est dans la Constitution canadienne, ça reviendrait aux provinces de l'imposer. Alors maintenant, si on veut un code qui est obligatoire, il faudra que chacune des provinces mette de l'avant un projet de loi, un règlement ou des règlements qui visent à encadrer les relations commerciales entre les détaillants, distributeurs et leurs fournisseurs. Et ça, c'est un selon nous, un peu plus complexe parce qu'on ne veut pas avoir 10 codes différents selon les provinces ou selon les territoires. Alors ça, c'est un enjeu qui est actuellement, sur lequel on se penche actuellement.
Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y aurait éventuellement loi ou règlement qui encadrerait un code qui pourrait, lui, avoir été établi par les partenaires du milieu, là.
Bien, si c'est le cas, il faudrait que ce soit approuvé par chacune des provinces. Mm-hmm. Alors, si on voulait faire un essai d'un principe comme celui-là ou d'une proposition comme celle-là, il faudrait que ce soit un code national canadien, mais volontaire, et qu'on mette en place tous les processus et procédés pour que ça fonctionne.
Une chose qui est encourageante, c'est que justement, la discussion progresse et les partenaires, et même dans le secteur de la distribution comme tel, on semble au moins attentif là, à ce qui peut être mis en place. Là.
Définitivement.
Si on revient maintenant à la question de l'heure ou de l'année, parce que ça fait déjà plus qu'une année qu'on est dans ce contexte de la pandémie, comment au CETAC, au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, vous traversez cette période de pandémie?
Je dirais qu'on sent vraiment qu'on est vers la fin, vers un retour, je vais dire presque à la normalité. Si je retourne un an en arrière, évidemment, à une semaine de notre congrès annuel, on a dû annuler. Et on s'est retrouvé vraiment dans un tourbillon auquel on se serait jamais attendu. En tout cas, moi, je m'étais jamais imaginé une période comme celle-là, où on a été sollicité de toutes parts, tant par les gouvernements pour participer aux cellules de crise, tant par les entreprises qui avaient des enjeux à gauche, à droite. Ça nous a pris quelques semaines avec le gouvernement pour faire reconnaître le secteur agroalimentaire comme étant un secteur prioritaire. Donc, déjà au départ, l'année dernière, on s'est retrouvé vis-à-vis des grands enjeux ou des grandes embûches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais toutes les régions, par exemple, avaient été fermées. Ça prenait des autorisations pour se promener d'une région à une autre. Puis il n'y avait pas de lettres à ce moment-là. Alors, on était vraiment pour un mode de résolution de problèmes et on faisait les choses au fur et à mesure sans savoir si on était le samedi ou le lundi. Alors, ça a été pour nous un choc au départ. Surtout le temps que tout le monde s'organise. Parce que annoncer qu'on a une pandémie et puis mettre tout le monde en quarantaine, finalement, on n'avait pas pensé à tous les impacts que ça pouvait avoir sur un secteur comme celui de l'agroalimentaire. Alors, évidemment, vous vous souvenez aussi, il y a eu une panique. Les tablettes d'épicerie ont été vidées de conserves, de produits surgelés, sans compter tout ce qui était papier de toilette, etc. Alors, les transformateurs ont eu peine au départ, évidemment, à répondre à la demande. Alors, ça a été une période extrêmement intense pendant plusieurs semaines, le temps qu'on retombe un peu sur nos pieds ou que la poussière retombe finalement et qu'on soit capable de voir un peu plus les choses, de prévoir en fait un peu plus les actions et les choses à l'avance. Alors, quand on est tombé dans une deuxième vague, en fait, on est à la fin de cette deuxième vague-là, au début de la troisième, je ne sais plus trop, on voyait déjà qu'on avait beaucoup appris de la dernière année. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas reproduites de la même façon. Les consommateurs n'ont pas paniqué puis vidé les tablettes d'épicerie parce qu'évidemment, ils ont vu que l'agroalimentaire ou l'industrie, le secteur, avait été capable quand même, malgré tout, d'approvisionner. Et le gouvernement, on travaillait vraiment avec un peu plus de connaissances qu'il y a un an. Alors déjà, quand je dis qu'on voit qu'on est à la fin ou un début de normalité, c'est qu'on sent qu'on contrôle mieux la situation maintenant qu'on la contrôlait il y a un an.
Il n'y a pas de secteur, de sous-secteur de l'agroalimentaire et dans la transformation comme telle, il n'y a pas de secteur où vraiment on s'est mis sur pause. Là, tout le monde a été actif et même peut-être beaucoup plus actif que la normale.
Effectivement. En fait, les seuls qui ont été mis sur pause, c'est les entreprises qui, évidemment, par le fait qu'on fermait tout ce qui était HRI, donc hôtels, restaurants, institutions, ont été impactés. Alors, eux, évidemment, ont dû gérer une décroissance. Mais pour les autres, ça a été gérer une croissance, gérer les approvisionnements. Il faut pas oublier qu'on a eu de la difficulté à recevoir des ingrédients ou des produits qui étaient importés d'Europe ou d'Asie pendant quelques temps, parce que ce qu'on a vécu ici, tout le monde l'a vécu sur la planète. Alors, évidemment, tout a été ralenti pendant un moment. Donc, on s'est retrouvé à être très créatif pour pouvoir combler certains manques ou certains besoins, justement, à cause de la pandémie.
Est-ce que chez les transformateurs alimentaires, on est content, satisfait de l'action des gouvernements là, pour stimuler le secteur, d'une part, le soutenir et prendre des mesures, justement, pour éviter des problèmes, là?
En fait, je lève mon chapeau là parce que tout le monde, on a vécu ça en même temps, au même moment, sans vraiment réaliser qu'on pensait tous avoir des plans de contingence qui fonctionnaient, sauf dans un cas comme celui qu'on a vécu. Mais ils ont rapidement mis sur pied des cellules de crise. Moi, j'étais impliquée tant au fédéral qu'au provincial dans des cellules de crise avec les ministères de l'Agriculture ou de l'Agroalimentaire. Je sais très bien que nos messages passaient à la cellule de crise principale là, qui voyait à tous les aspects du bon fonctionnement de leur plan de contingence. Et ils ont été très ouverts, très réceptifs. Ils n'ont pas essayé de tourner les coins ronds. Ils ont vraiment été à l'écoute. Et je dirais que dans les circonstances, ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient. Puis on peut pas dire aujourd'hui là qu'on est En fait, à part de quelques secteurs qui ont subi vraiment des revers importants, comme la restauration, par exemple, en agroalimentaire, je peux dire que l'industrie comme telle en sort grandie aujourd'hui.
Est-ce que, à votre connaissance, des secteurs de l'agroalimentaire ont mis de côté des investissements ou au contraire, on en a profité justement pour investir pendant cette période-là de façon à être en mesure de bien répondre à une demande qui semble vouloir s'installer davantage, par exemple, pour des produits locaux, là?
Bien, ce que je comprends, c'est que les projets d'investissement, dans certains cas, ont été accélérés et ils ont profité de justement la dernière année pour mettre les bouchées doubles et aller de l'avant avec certains projets, justement dans le but d'être capable de mieux répondre aux demandes. Outre, évidemment, certains secteurs durement affectés autour du tourisme et de la restauration, je dirais que de façon générale, les demandes de produits ont été en croissance auprès de la plupart des entreprises et qu'on voulait évidemment répondre à ces besoins-là. Donc, on a dû mettre les bouchées doubles ou justement accélérer les investissements. Je ne pourrais pas vous donner des exemples spécifiques, mais je sais que ça va dans ce sens-là.
Mais une chose est certaine, c'est que même si on a continué à opérer et que dans certains cas, on se tire bien d'affaires, tout le monde a hâte que ça se termine tout ça, là.
Oui, en fait, il y en a qui attendent évidemment le retour du tourisme, réouverture d'hôtels, cafétérias, parce que 30 % de l'industrie agroalimentaire est directement liée à ces secteurs-là, aux secteurs qui ont été durement touchés. L'aviation, par exemple. Il y a une entreprise ici au Québec qui fait la très grande majorité des cabarets qu'on a dans les avions. Alors évidemment, même si certains vols ont repris, il n'y a pas nécessairement de nourriture qui se sert. Alors, il y a des entreprises comme celle-là qui ont été mises complètement de côté ou en fait qui ont dit bye-bye à leurs opérations là, pendant plusieurs mois et qui ont géré la décroissance. Donc, évidemment, on a tous hâte là, de revenir à une normalité, la réouverture complète de tout. Et on a aussi hâte de revoir accès à la main-d'œuvre. Alors, pour toutes sortes de raisons, il y a plusieurs personnes qui ne travaillent pas actuellement, mais qui cherchent pas activement non plus. Et la pénurie de main-d'œuvre a été accentuée pendant la crise de façon importante. Et quand on parle d'investissement, ben il y a des investissements qui ont été faits en productivité ou pour ajouter des corps de travail parce que il manquait de main-d'œuvre. Puis on essayait d'échelonner ça sur des chiffres de 24 heures au lieu de 12 heures ou plus ou 14 heures. Alors, ça a été difficile pour plusieurs, puis on souhaite ou on espère que le retour à la normale va aussi ramener certains travailleurs.
Des travailleurs locaux, comme on dit, mais oui. Il y a aussi tout le dossier de l'immigration. Là. Il y a bien des gens dans le secteur des affaires, et pas seulement l'agroalimentaire, et qui souhaitent que l'on ouvre un peu plus, et même passablement plus, l'immigration. Là.
Oui, à Québec. Je sais qu'on va avoir un projet pilote justement pour notre secteur pour voir comment on peut bonifier, améliorer l'immigration au Québec pour répondre aux besoins du secteur en termes de travailleurs. Et au fédéral, évidemment, on n'a pas changé grand-chose sur les termes des travailleurs étrangers temporaires, mais du moins, on essaie de faciliter leur venue actuellement en évitant le 3 jours à l'hôtel à 2 000 $ là, parce que ça faisait pas de bon sens. Alors évidemment, on met en place des normes très strictes, mais c'est pas 3 jours à l'hôtel à 2 000 $.
C'était il y a quelques jours votre Assemblée générale annuelle au Conseil de la transformation alimentaire du Québec et tout ça, bien sûr, de façon virtuelle. Est-ce qu'il y a des dossiers chauds autres que ceux qu'on vient d'aborder là, qui ont été mis de l'avant là?
Bien, évidemment, il y a le dossier de la consigne, l'élargissement de la consigne et la modernisation de la collecte sélective qui a été un enjeu qui n'a pas vraiment pris de vacances pendant cette période-là dans laquelle on a été très, très, très occupés. Et évidemment, le CETAC a été appelé à gérer en 2020 le fameux fonds d'urgence pour la transformation alimentaire pour le Québec spécifiquement. Donc ça a été, en plus de ce qu'on vient de discuter, là, de tout ce qui était lié à la pandémie, on a quand même dû mettre les bouchées doubles là, pour pouvoir répondre à ces dossiers-là ou à ces enjeux-là, sans compter évidemment tout le support qu'on a donné à l'industrie là, dans la période de crise.
Écoutez, Mme Cloutier, il y a plusieurs dossiers qui vont ressurgir au cours des prochains mois. Bien, à la première occasion, on refera le point là, sur ce qui vous occupe et préoccupe le plus là, dans le secteur de la transformation.
Avec plaisir.
Mme Cloutier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Lionel Levac. Pour Sylvie Cloutier, il ne fait aucun doute que les transformateurs sortiront renforcés de la pandémie. D'ici là, il faut bien sûr voir à ramener le plus vite possible, mais prudemment, l'activité dans le secteur HRI et prendre des mesures rapides pour garantir de la main-d'œuvre. Au revoir.